Le retour.
And I don't like it at all, OK?
De Radio X.
OK?
En vacances.
I don't like it at all.
Radio X.
Mesdames, messieurs, voici Stéphane Monette.
Toujours le fun, y jaser, 16h pile poil, Steph Monette. Salut, mon cher.
Salut, comment ça va?
Ça va bien, toi? Comment tu vas?
Ben, ça va bien, on est en vacances.
Ouais, c'est officiellement décrété, tout ça est officiellement commencé, mon cher.
Ben oui, puis ben moi, j'ai commencé la semaine passée, parce que quand je suis remonté, parce que j'étais parti travailler à Halifax, puis quand j'ai monté dans la vallée de la Matapédia, la pêche au saumon était plus qu'excellente. On n'avait pas vu ça depuis 2011, fait que j'ai déconnecté, puis j'ai pêché le saumon, je me suis amusé, puis je suis revenu à la maison, puis là, ben mon Dieu, les vacances recommencent, fait qu'on part.
Puis avoir une business, faire monnaie et tout ça, j'imagine que t'es en vacances, mais que t'es toujours en train de penser à quelque chose.
Ouais, ben on est tout le temps prêt à travailler. Tu sais, n'importe quel entrepreneur, en tout cas, je pense, tout dépendant peut-être de ton niveau, mais tu sais, nous autres, on est une PME. On travaille tout le temps, mais on peut joindre l'utile à l'agréable. Tu sais, à cette heure, avec les Starlink de ce monde puis tout le kit, ben on est capable de répondre à nos courriels, vérifier nos affaires, puis après ça, pogner canne à pêche, puis aller à la pêche. Fait que
ben oui.
Ça a été pas mal ça. C'était pour ça, la semaine passée, que j'ai été capable de quand même aller profiter d'une rare fois où est-ce que l'eau sur la rivière Matapédia était parfaite, où est-ce que même si le coup de saumon est très fragile, tout était parfait, fait qu'on a pu prendre du saumon en masse, puis s'amuser.
Puis projet vacances, on en parlait ce matin, moi puis Louis, j'imagine que tu sembles que tu restais au Québec. Là. Tu vas peut-être te promener un peu, mais tu vas principalement rester ici, tu y reposes.
Oui, oui, on reste au Québec, mais on a un peu changé notre destination parce que faut que j'aille sur le bord des lignes du Nouveau-Brunswick travailler en même temps que mes vacances.
Okay.
Fait qu'on on est en montant vers l'est. Faut que je fourche vers la Tuque. Je m'en vais à la Tuque une couple de jours, puis je vais aller pogner du doré avec mon fils puis sa blonde. Ma blonde, elle tombe officiellement en vacances vendredi. Fait qu'elle vient me rejoindre à Trois-Rivières. Puis là, on part. On s'en va une couple de jours à Québec. Puis après ça, on monte. On s'en va sur le bord des lignes du Nouveau-Brunswick. Puis là, régler une couple de petites patentes que j'ai à régler des fournisseurs des appartements. Mais ça va être cool. Faire du vélo, va aller en pêche, je vais aller poigner du bord. Puis si ma blonde, si je suis assez fin que ma blonde, peut-être que je retourne au saumon. Fait que, bon, ouais.
En tout cas, tu nous diras si tu passes à Québec, mon Steph.
Ben oui, ben, écoute. C'est possible, je vous recolle vendredi, si tout va bien, peut-être que je pourrais aller vous voir en studio.
C'est vrai.
Fait que je suis après placer mes affaires, là. Si ça marche bien, en tout cas, moi, on va vous texter là, le matin. Si je suis à Québec, ben j'aimerais ça aller vous dire un beau bonjour en studio direct.
Let's go. Hey, je lisais un article dans le Journal de Montréal en fin de semaine. J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça, puis j'ai aussi pensé à DH. On nous parle d'un gars dans l'article qui tripe ses oiseaux et qui récemment s'est fait contacter à propos d'une jeune corneille qui se serait violemment frappée à une fenêtre ou qui serait tombée d'un nid dans le coin de Rimouski. Puis là, le monsieur, ça a l'air que c'est le spécialiste des corneilles. Pourquoi je vous parle de DH? Parce que DH a déjà adopté une corneille, soit dit en passant. Et là, ben monsieur, dans l'article, l'a surnommé Plume, la belle corneille. Puis là, ben il dit que c'est la cinquième qu'il accueille, réhabilite. Il fait ça depuis qu'il est tout jeune, depuis qu'il a 14 ans. T'sais, le gars, de la façon qu'il nous explique ça, il connaît ça. Mais c'est-tu possible pour une corneille? Parce que lui, il nous disait dans l'article qu'après après avoir pris soin d'elle, mais là, elle pourrait migrer dès cet automne si elle arrive à joindre à un groupe de corneilles, pourrait la laisser partir ensuite. Mais est-ce que c'est possible, techniquement, de revenir à l'état naturel pour une corneille qui a été nourrie et qui a été... les humains ont pris soin d'elle pendant des mois de temps.
Moi, je te dirais que oui. OK, parce qu'ils ont leur instinct quand ils sont en bande. C'est l'oiseau le plus intelligent qu'on a. OK? Ou ce que le bas blesse, c'est qu'on n'a pas le droit de faire ça. Fait que, tu sais, la loi, est-tu bien faite ou est mal faite? Je ne le sais pas. Mais de prendre un animal ou un oiseau sauvage, de s'en occuper, si tu n'as pas le statut de refuge ou le permis à te créditer à ça, c'est illégal de faire ça. Fait que les agents peuvent se présenter chez vous, cogner à ta porte, saisir l'animal, puis donner un beau ticket, puis repartir avec après. Fait que souvent, il y en a qui réussissent bien parce que, tu sais, je me souviens d'un endroit dans ma région, la madame, elle avait un chevreuil, puis ils sont venus pour le saisir, puis elle a fait tellement brassé de boîtes avec ça qu'ils ont laissé. Mais faut que tu sois habileté, faut que tu sois équipé. Tu sais, je suis content que le monsieur, c'est pas sa première, il est capable de la nourrir, il comprend comment est-ce que c'est. Puis, si elle relâche, puis elle part, puis ça ne part pas, puis revient à la maison, bien, il est habitué de la garder, fait qu'il va pouvoir la garder. Mais normalement, on ne peut pas faire ça. Puis, une des raisons qui est bien importante de comprendre pourquoi, c'est qu'ils peuvent soit se revirer contre vous autres, Parce que quand leur instinct sauvage avance plus, là, on parle pas d'une corneille, mais on parle de n'importe quel autre animal.
Ouais.
Puis aussi, il peut avoir un danger de transmission de maladie. Il peut avoir des parasites, il peut avoir, dans certains cas, peut-être la rage qui pourrait se mêler à ça, des infections. Fait que, tu sais, il y a bien des affaires qui rentrent en ligne de compte. Puis oubliez pas que, mettons, là, que tu décides de garder un orignal ou un chevreuil ou un raton laveur.
Un orignal, c'est une bonne job, là. Quand même imposé.
D'un 4,5 à Québec, faut que tu sois bien organisé, là, tu sais.
Ah, mais j'ai un beau patio, Steph, je suis correct.
Oui, ça pourrait marcher. Mais tu sais, la game, c'est que c'est s'il arrive une blessure, ben, il n'y a pas de vétérinaires qui sont habilités à les soigner. Fait que là, ben, ça devient des potions de ma tante puis de mon oncle. Puis bien souvent, ça mène à rien. Fait que c'est un peu pour ça qu'il réglemente ça pour éviter que tout le monde décide de devenir Dr. Doolittle puis sauver tous les animaux de la planète. Là,
non, ouais.
Fait que c'est un peu ça.
Puis t'en as parlé, des fois, le comportement animal peut se modifier au fil du temps. Moi, j'ai entendu une histoire dans mon quartier, là, une famille qui avait adopté un beau raton laveur. Mais il était gentil, puis il flattait, puis oh, il se dorlotait, c'était bien parfait. Jusqu'à temps que Steph arrive, les fameuses chaleurs. Et là, après ça, il est devenu agressif. Il y en a un qui s'est fait mordre, puis là, bien évidemment, t'as peur pour la rage. Tu sais, tu penses pas qu'il va virer de même, mais il va virer de même, parce que les chaleurs, ils leur font perdre complètement la tête.
Bien, en fait, faut comprendre que la majorité des animaux qu'on a au Québec, à cause de notre climat, ils ont une période d'urite qui arrive une fois par année. Fait que quand ça arrive, ben tout leur système est fait pour se préparer à accoupler le plus de femelles possible, à essayer de faire le plus possible ce qu'ils ont à faire pour que la progéniture arrive et qu'ils soient capables de procréer. Fait que c'est pour ça qu'ils deviennent comme ça. Ils deviennent soit qu'ils vont te prendre, il va te digner, puis s'il ne digne pas, ben il va te prendre comme la compétition, puis là, c'est là qu'il peut t'attaquer, puis il peut se revirer contre toi. Ça arrive dans toutes les espèces. Moi, j'ai ça avec le chevreuil chez nous. N'importe quelle espèce, quand le rut arrive, puis qu'il découvre tout d'un coup que ça peut et où arriver, ben là, c'est là que le comportement change, puis c'est là qu'il pourrait avoir des problèmes.
Puis, y a-tu les huskies, tu sais, mettons, t'es proche un peu du loup, puis ces affaires-là, y a-tu des gens qui ont déjà essayé d'adopter des loups ou des coyotes, puis ça a fonctionné, puis c'est quelque chose de possible?
Oui, bien. Ouais. Illégalement, là, moi, vous dire ça illégalement, je n'aimerais pas la personne, par exemple, pour qu'elle ait de troubles, mais moi, j'en ai des chums qui ont ramassé des loups, là.
Vrai?
Ils sont élevés. Oui. Ben, je me souviens d'un en particulier, là, il s'appelait Tilou, justement, puis on le voyait, il était dans la maison régulièrement, il y avait juste mon chum qui était capable de le nourrir. Puis c'était vraiment devenu comme une meute chez eux. Tilou, il était le dernier de la meute parce qu'il avait ses enfants dans la maison, il avait sa femme, puis il y avait lui. Lui, quand il mangeait, c'était le premier à manger. Après ça, les enfants, sa femme mangeait, puis après, il faisait manger le Tilou. Puis c'est devenu des fois des bagarres, là, tu sais, là, fallait qu'il brasse, fallait qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Puis son comportement avait resté le même, là. Il a, tu sais, mettons, il était dehors avec Tilou. Là, on parle, il restait dans le nord, là. Puis il lâchait Tilou, mettons. Tilou ramenait un lièvre, il le mangeait pas. Il venait le porter à mon chum. Mon chum, on allait dire son nom. il venait porter un lièvre, mettons, à mon chum pour lui dire, ben, regarde, j'ai ramassé ça, on peut en manger. Si tu peux m'en laisser, parce que c'est moi qui l'ai chassé, tu sais. Il avait bâti la hiérarchie là-dedans. Mais faut que tu connaisses ça. Puis, tu sais, je vais te dire, là, j'avais vu, moi, Tilou manger. Tu sais, un gant de cuir là, qu'on a là, pour courrier du bois, des affaires de main. Là.
Ouais.
Puis, d'un serrement de doigt, une shot, il avait coupé le doigt. Il avait coupé le doigt du gant. Ça bon. Même, juste toc, un coup. Fait que, tu sais, c'est pour ça que faut faire attention. Faut juste faire attention.
Des histoires de même, là, souvent, on s'entend que ça finit par le loup, il a mangé quelque chose qu'il fallait pas, puis malheureusement, le loup s'est fait manger.
Oui, le loup a fini avec une balle dans le front. Ouais. Ça ressemble à ça bien souvent.
C'est souvent ça qui arrive. Mais les animaux sauvages, c'est cool, mais ça reste sauvage pareil. Hein?
Tout le temps. C'est ça que les gens... Tu sais, on va parler du chien, par exemple. Tu sais, les chiens qu'on a à la maison, il fut un temps où est-ce qu'ils étaient sauvages. Mais ça a pris des centaines d'années pour briser leur cycle sauvage, les domestiquer, mêler des génétiques ensemble pour les amener où ils sont là aujourd'hui. Fait qu'il faut pas penser que si tu ramasses un renard, un coyote, un loup, nomme-les, que tu vas être capable de faire de quoi qu'il y ait de l'allure. Puis encore là, il y a les espèces après qui rentrent en ligne de compte. T'sais, si tu ramasses un rat musqué, puis tu penses que tu vas faire de quoi avec, ben non, il fait partie des proies Puis à un moment donné, il va penser que tu vas le manger, puis il va se pousser. Puis... Fait que tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Oui, ça va s'apprivoiser à un moment donné. Je vais placer pour vous le dire, parce que j'ai un nombre de chevreuils que j'ai apprivoisés chez nous dans le parc. Parce que chez nous, ils sont quasiment à l'état sauvage. Mais oui, c'est vrai que ça se domestique, mais jamais on va domestiquer un mâle, par exemple. Parce que c'est exactement ce qu'on parlait. Ouais. Quand c'est le temps du rude qui arrive, mâle, pas mâle, il arrive à côté de toi, puis il veut te parser, puis il te prend comme un rival, puis il veut dominer. Fait que c'est la loi de la jungle, on va dire. C'est comme ça que ça se passe.
On te pose la question sur le texto. Tu parlais de chiens, les chevaux. Est-ce qu'il y en a des chevaux sauvages encore en Amérique du Nord? Ça existe-tu pas mal, ça, ou c'est quelque chose qui est très,
moi,
très
j'en ai vu. Moi, j'en ai vu live en Saskatchewan.
Ah oui, puis qu'il y en a encore au troupeau. Canada, là. OK.
Ouais, bien, souvent, c'est des. Dans le cas du troupeau que je te parle, c'était un fermier qui avait lâché quelques chevaux parce qu'il était rendu trop vieux. Il n'y a personne qui voulait reprendre sa ferme. Puis lui, il s'était dit, c'est pas vrai, il m'a tiré mes chevaux, il m'a lâché.
Ouais, en Californie, au Nevada aussi, il y a beaucoup de troupeaux. Là, dans Death Valley, c'est des troupeaux de chevaux sauvages.
Exactement, exactement. Puis ça se domestique. Parce que, tu sais, moi, celui que je vous parle, que j'ai vu en Saskatchewan, ça faisait déjà une vingtaine d'années. Fait qu'il y avait eu des progénitures. Tu sais, là, il y a des jeunes chevaux là-dedans qui n'avaient jamais vu, tu sais, qui n'avaient jamais été domestiqués par l'être humain. Puis c'est surprenant, hein, comment est-ce que c'est fort un cheval, comment est-ce que ça s'adapte, comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que les dominants, ils se maganent par les batailles. J'ai resté complètement... Tu sais, on est habitué les chevaux, là, des voir dans des écuries, puis ils font attention, il y a une petite plaie, puis ils vivent fou, puis ils mettent ça, puis de longueur. Et si bol, à l'état sauvage, oh my God, des cicatrices, puis des scies, c'était impressionnant. Impressionnant de voir aller les chevaux. Ah oui, c'est vraiment... C'est une bête très impressionnante à l'état sauvage.
Ah, capoté. Puis écoute, en parlant de bébites qu'on aimerait adopter puis que ça fonctionne pas souvent, parlons des écureuils.
Les fameux.
Gros dossier dans la presse. On a parlé, moi puis Louis, un matin. Là, on nous présente le travail dans cet article-là de Frédéric Cloutier, qui est un comédien, là, qui est un trappeur urbain. Donc, lui, puis on en parlait avec la gang des Radic Extermination qui vient faire des chroniques une fois de temps en temps dans notre show. Tu peux pas tuer un écureuil. Il faut que tu le mettes dans une cage. Il faut que tu ailles le porter. Le porter l'autre bord des ponts pour être sûr qu'elle ne vienne pas chez vous. Puis là, ben à Montréal, on dit là, ce matin, y a-t-il trop d'écureuils? Puis on a écrit même deux articles là-dessus à Montréal parce que ça a l'air que c'est le bordel. Ça pète des coins de maison. Ça mange des patios presque au complet. Le monde sont en beau joie le vert. Puis ça a l'air là, que les dossiers pour régler des cas d'écureuils qui rentrent dans la maison, ça arrête pas d'arrêter, mon Steph.
Savez-vous que ça va faire pas loin, je vais vous dire, là, entre 20 et 25 ans, que la Fédération des chasseurs et pêcheurs ont demandé le droit de chasser l'écureuil au Québec. Puis on n'a pas eu encore l'autorisation, puis on ne sait pas pourquoi. C'est une chasse qui est très, 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 très exploitée aux États-Unis pour la relève. Puis là, qu'est-ce que tu me dis là, Montréal? Ben, je vais vous répéter le même discours que je dis souvent. C'est une question de temps pour qu'il y ait des maladies qui se mettent là-dedans, que ça se contamine à travers bien des animaux domestiques qu'il y a en ville, puis que peut-être aussi ça peut arriver à des êtres humains. Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand il y en a trop, il y a quelque chose qui se met là-dedans pour contrôler. Ma nature est bien faite, elle va contrôler ça. Mais entre-temps, c'est ça qui met ça compliqué dans les villes pour les écureuils. Puis c'est vrai que c'est une rapide. Ben, tu sais, en fait, pensez-y, c'est un rat avec une longue queue, là. C'est la même espèce, là. C'est la même affaire.
Aussi imposant, ça rentre dans aussi dégueulasse.
Aussi, c'est tout pareil, c'est la même affaire. Mais ces écureuils-là qu'on parle que dans les grandes villes, les écureuils gris et les écureuils noirs, aux États-Unis, sont très, très, très prisés pour la viande. La chair de cet écureuil-là est excellente. Ah. Mais ça reste que c'est un gros, là. Moi, je vais vous dire ça de même. Puis d'essayer de contrôler ça par mille et une façons d'échanger de place, puis c'est puis ça. C'est peut-être des coups d'épée dans l'eau, parce que ça a deux portées par année, entre 4 et 6 petits de la chatte. Fait qu'imagine, la femelle, elle est féconde après tout de suite la première année. Fait qu'imaginez comment est-ce que ça prend pas de temps. Puis à Montréal ou dans les grandes villes, ils ont pas de prédateurs ben, sauf que là, le coyote commence à bien s'adapter avec les villes. Mais effectivement, c'est une rapace, ça fait partie... Des animaux qui sont faits pour être mangés par des prédateurs. Donc, s'ils n'ont pas de prédateurs, ben, ils vont prendre énormément de place. Puis l'étape d'après qui arrive, ben, souvent, c'est là que la maladie embarque, puis c'est là que ça fait des problèmes.
Mais tu sais, tu parles des coyotes qui peuvent venir être des prédateurs, comme dans le cas où on parle là, ce matin dans l'article de la presse, à Montréal. Je pense pas qu'il va se rendre de coyotes là. Est-ce qu'il y a des coyotes, oui, ça va aller dans des secteurs urbains, peut-être des petites banlieues, des campagnes, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à se rendre à une grosse ville comme Montréal, où il faut que tu aies
traversé la vallée et les ponts? Oui, il y en a présentement dans l'est de Montréal. Dans le coin de Pointe-aux-Trembles, ces endroits-là, il y en a. Je te parle pas du centre-ville de Montréal. T'sais, on s'entend parce que ça y prend quand même un habitant aux coyotes.
Non, il sera pas sur René Lévesque demain matin, là.
Non, puis c'est pas le genre à prendre l'autobus puis le métro non plus. Tu sais, on s'entend, là. Fait que ça y prend un habitat pour être capable, mais on le sait très bien qu'il y en a dans l'est de Montréal, il y en a. Puis souvent, où est-ce qu'il y a des grands parcs aussi, il y en a. Ben, écoute, vous allez faire peut-être le saut, là, mais une des villes qui a eu le plus d'études sur le coyote, c'est la ville de Chicago. Hey. Où est-ce qu'ils se sont aperçus qu'à Chicago, il y a énormément de coyotes. Ils sont énormément rusés. C'est incroyable les endroits qu'ils prennent pour se voyager d'un point A à un point B sans arrêt de vue des êtres humains. Ils se sont adaptés aux horaires des êtres humains. Ils savent que Mme Robert, je passe à 4 heures avec son kiki à telle place. Ils savent qu'il y a 2 trucks qui viennent domper des vidanges à telle place. Ils savent tout. Les coyotes se sont adaptés à l'être humain. Puis Montréal fait partie de ça. Montréal fait partie de ça présentement. Mais tu sais, comme je vous dis, il y a des secteurs que le coyote, il n'y a rien pour rester là. Exemple, tu sais, je prends quartier Villeray, il n'y a rien pour un coyote dans ce coin-là. Il y a des petits parcs, il n'y a pas grand-chose. Tandis que dans l'Est, il y a encore des étendues de forêt, il y a le bord de l'eau, il y a des endroits où est-ce que le coyote vit très, très bien. Là, dans ce coin-là, il y en a.
Puis penses-tu, pour revenir à l'écureuil, qu'à un moment donné, on va prendre une décision, parce que là, on voit clairement qu'on est en train de perdre le contrôle de sa population, ça rentre d'un bord puis de l'autre, puis tu sais, on parle de bâtiments qui datent des années 1800, 1900, c'est magané, fait que t'as beau pas vouloir qu'ils rentrent, des fois, il y a des trous un peu partout dans la toiture, sur le côté, ce qui fait en sorte que là, tu perds le contrôle. Penses-tu qu'on va prendre une décision puis qu'on va pouvoir le chasser à un moment donné, une bonne fois pour toutes, parce que ça continue de même, comme tu le disais, on a des maladies à un moment donné, là.
Oui, exactement. Mais là, ça dépend encore comment est-ce qu'ils vont voir ça, parce que le problème des grandes villes, c'est qu'ils humanisent beaucoup les écureuils ou n'importe quel autre animal. Fait que, tu sais, puis tu sais, c'est pas dur à attraper des écureuils, on s'entend, là. Faire le clean-up d'un écureuil, c'est pas long, là, tu sais. Mais comment est-ce que les madames ou les messieurs qui restent dans des endroits urbains vont trouver ça, de voir des pièges installés, qu'un gars le matin va faire sa run, va ramasser les écureuils qui sont là, tu sais... Parce que c'est payant, hein? C'est un animal pour la fourrure, puis pour les queues surtout. C'est très, très, très lucratif de trapper l'écureuil. Fait que, tu sais, ça serait merveilleux là, qu'ils pourraient dire ça, puis de le contrôler, puis de voir comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que ça serait. Mais malheureusement, c'est souvent l'humanisation des animaux qui fait qu'ils causent ces problèmes-là. Tu sais, on l'avait vécu avec les chevreuils à Longueuil, puis tout le kit, là, comment est-ce que ça a été.
Ouais, c'est
vrai. Ils n'ont pas eu le choix, là. Ils en ont tué une affaire pas loin de 1000, là. Ils ont fait de quoi pour que le monde ne voyait rien, puis ils ont sorti les chevreuils de là, ça n'avait plus de bon sens, il y avait des problèmes. Fait que, tu sais, si va-t-il arriver ça avec les écureuils, peut-être. On verra qu'est-ce qu'ils vont décider. Mais n'oubliez pas, là, ça fait pas loin de 25 ans qu'on a demandé pour la chasse. Ça n'a pas de bon sens. D'accord. Qu'on a demandé l'ouverture de la chasse à l'écureuil, puis ça dort encore sur des tablettes. La FDCP, la Fédération des chasseurs et pêcheurs, régulièrement font des appels en disant qu'est-ce qui va arriver avec ça. Puis il y a tout le temps un fonctionnaire qui se porte et qui va se cacher dans un bureau et qui ne veut pas en parler.
Mec, ça pète puis que quelqu'un meurt de quelque chose, d'une maladie, on gère ça en temps et lieu, mon Steph.
Oui, puis tu sais, ça peut être des affaires. Ça peut être des affaires. Là, ça peut être la gale, ça peut être un paquet d'affaires. Fait que c'est là. C'est là qu'on verra comment est-ce qu'ils vont gérer ça.
Puis un écureuil là, dans la volée d'aujourd'hui où tout le monde en parle, il y a plein de monde qui disent que ce serait très, très, très bon dans une assiette. Moi, me semble, j'ai un écureuil, c'est bon dans
pour la fourrure, ouais. Peut-être, là, mais manger ça brûler, en entrée avant mon steak, je sais pas. Là.
Mais c'est bon pour regardez bien, chaque viande est bonne à manger. OK, on s'entend. Chaque animal a une façon de la prêter. Je vous le dis, l'écureuil, là, quand je vais à la chasse aux États-Unis, là, OK, c'est pas rare que tu te ramasses chez un fermier qui dit « on va manger du squirrel ». OK, eux autres, ça fait partie de leurs affaires. Puis c'est vrai que c'est bon. C'est une viande qui est rougeâtre, blanche, puis qui est aussi tendre que du brun de poulet, mettons, OK, on va vous dire ça comme ça. C'est plus petit, s'il est coupé en quartier, c'est comme un lapin un peu. Ils vont séparer les fesses, ils vont séparer les robes du dos, les épaules, puis que tu manges ça, puis c'est très bon, sauf que ça dépend aussi de ce que tu le poignes. Tu sais, parce qu'oubliez pas, un écureuil, là, ça mange pas juste des feuilles et des noix, là. C'est drôle, avec tabarouette, regardez bien ça. J'étais sur Matapédia, puis il y a un écureuil qui a sorti d'un sac à vidange, OK? Ben, il y avait un gars qui avait mangé du poulet Kentucky, puis l'écureuil est après manger du poulet Kentucky.
C'est vrai, hein? Il trippe sa recette du colonel.
Mais tu sais, il faut que compreniez qu'il va s'adapter à ce qu'il y a comme nourriture. Parce que, à Montréal, oui, peut-être qu'il y a des chaînes, peut-être qu'il y a une coupe de gland, mais je voudrais pas savoir qu'est-ce qu'il mange à Vidange puis qu'est-ce qu'il mange ailleurs, là, tu sais. Fait que c'est là que, à un moment donné, tu dis, on veut bien manger des écureuils, mais tu sais, je mangerai pas d'écureuil de la rue Saint-Denis, mettons, là, tu sais.
Celui-là, le garderai pour la queue, ruelle, mais... Là,
ouais, tu sais, là, tu sais pas si c'est un veau ou un écureuil, fait que... Mais, on va vous dire, c'est comme ça, un écureuil qui est récolté en pleine forêt, qui mange des glands, qui mange du traîne, qui mange n'importe quelle chose que la nature, il donne directement dans la nature. J'ai pas de problème à manger sa viande-là, ça, c'est sûr et certain. Mais comme je vous disais, on attend encore, ça fait 20 quelques années là, qu'on attend après que le gouvernement nous donne le droit de chasser.
Puis là, on te pose la question, Steph, sur le texto. Quand on trappe un écureuil, ben pas on trappe, en fait, on le met dans la cage, puis là, ben on possède l'écureuil, ben là, on va le porter, mais c'est à combien de kilomètres que tu vas le porter pour pas qu'il revienne? Parce que j'ai entendu des histoires, moi, de gens qui mettaient ça dans la cage, puis il avait l'air d'être le même qui revenait une couple de semaines après. Là. Fait que quand tu le laisses à tant de kilomètres, il peut revenir chez vous, là.
Normalement, c'est les femelles qui reviennent tout le temps à leur place. Puis pour vous donner une idée, là, je peux pas vous dire l'écureuil parce qu'il doit pas avoir fait d'études avec des collèges GPS, là. OK, pour les ramener, pour voir comment est-ce qu'ils faisaient.
Oui.
Mais moi, j'ai vu chez moi un ours qu'on avait, une femelle ours qu'on avait attrapée. Il avait mis un collier GPS puis un tac dans l'oreille. Il avait été la porter à 600 km de chez nous. Puis 2 ans après, on la reprenait dans des pièges chez nous.
C'est vrai? Ah, oui.
Ouais. Ouais. Les femelles souvent reviennent aux mêmes endroits parce que souvent, les habitats qu'ils ont découverts pour leurs petits sont intéressants pour eux autres. Fait qu'ils vont revenir d'année en année. Là, je peux pas vous dire l'écureuil s'il est comme ça, mais la femelle ours, elle, on sait que c'est comme ça. Parce qu'elle, quand elle connaît tout le secteur où est-ce qu'elle est, elle est capable d'élever ses petits, elle sait qu'au printemps, il y a de la carpe, à l'été, il y a des framboises, à l'automne, il y a des glands. Mais elle connaît tout l'environnement pour pouvoir bien nourrir ses petits. Fait que c'était facile de la reconnaître. Là, elle avait un tag dans l'oreille. Le ministère, il avait un tag là, dans l'oreille. Fait quand on l'a rattrapé 2 ans après, elle avait été portée dans le chemin Lépine, en haut, dans le parc des Laurentides, à 600 km de chez nous. Puis 2 ans après, puis, hey, c'est une run là, qu'elle a faite, elle a traversé des chemins, des maisons, des ça. Puis elle est revenue dans la région d'Amherst, puis c'est là qu'on l'avait rattrapé. Fait que tu sais, moi je le croirais. Souvent, quand tu le fais passer, mettons, on va parler de Montréal, qu'on passerait le fleuve, qu'on aurait tous les portes à Longueuil, mettons.
Mm-hmm.
Peut-être que là, ça serait plus de troubles. À moins qu'il frappe sur le pont au quartier, là. Mais tu sais, ça serait peut-être plus de troubles qui reviennent à leur point d'origine. Mais nature pour nature, si la femelle elle a trouvé un endroit qui était bon pour ses petits, ben souvent elle va revenir là. Souvent c'est ce qui arrive.
On peut-tu faire des comparatifs avec le tamis oreiller, là, qu'on appelle le petit Suisse, là, qui des fois défend nos remblais. Puis c'est pas tant peureux que ça. Moi, j'en ai un qui se promène sur mon terrain, puis des fois, je suis en train de faire des affaires sur mon patio, il se pointe et il doit être à une couple de pouces de moi. Pas nécessairement peureux, puis tu veux pas qu'il te morde non plus. Là.
C'est pas le même. Il travaille pas dans le même habitat.
Okay.
C'est pas pareil, le tamis, ils sont complètement différents. Il travaille beaucoup plus au sol, il va creuser des trous, il va se faire des terriers. Il est plus au sol, parce que l'écureuil, lui, il monte. Il va se faire des nids dans les arbres. Il va rentrer dans les corniches. Il va rentrer partout.
Okay.
Les tamis, nous autres, les petits Suisses, on leur fait bien attention, nous autres, chez nous. Parce que c'est bien protégé, parce qu'on les aime beaucoup. Parce qu'ils sont, un, sont cute, sont fins, puis ils font pas beaucoup de dégâts. Ils vont rentrer dans le sol, par exemple. Ça peut arriver qu'ils vont empoigner dans le sol.
Oui, c'est ça que j'avais déjà entendu. Des fois, ça se
fait. Ils vont tout le temps descendre en bas. Un écureuil, lui, va monter. En tout cas, dans mon cas, de moi, ce que j'ai observé, tout le temps plus en hauteur, puis ils font beaucoup de dommages. Un Suisse, ça fait quasiment pas de dommages, pas pareil.
Ils sont bruyants en plus, un méchant temps, les écureuils. Fait que, écoute, Steph, merci pour tes lumières. On a pris plein d'affaires, ces écureux, aujourd'hui. Puis si tu passes à Québec, ben tu nous feras signe, on va t'accueillir.
Ah, c'est sûr, je vous texte, j'irai vous voir. Puis quand je ferai un ragoût d'écureuils des steaks, je vous ramènerai ça.
Ah, parfait. Ah, merci, Steph.
C'est bon,
on va écouter à ça toute la gang. C'était Stéphane Monette.
Bye bye.
Salut, ciao. On fait une pause, on vient, vous écoutez le retour de Radio X.
Le retour de Radio X.
Petite pause.
OK.
On revient dans pas long.
Radio